c'est la poudre jaune qui est là-dedans. C'est une poudre qui s'appelle la lipuline. Alors, l'histoire de la bière démarre au Moyen-Âge avec les moines. On suppose que ce sont les moines qui ont, par hasard, certainement découvert qu'en mettant ce genre de choses dans le brassin, ça donne trois choses très particulières. Premièrement, ça mousse. Sans houblon, ça mousse pas. Deuxième chose, aromatiquement, ça donne cette amertume et un goût très particulier. Et troisième chose, c'est que la bière se conserve. Très, très importante. D'ailleurs, c'est utilisé en pharmacie.
Le houblon, il a des vertus fongicides et bactériologiques.
Alors, on suppose que la plante développe cette poudre, en théorie, parce que la graine se forme à la base des bractées des feuilles. Là. Et on suppose que la poudre entoure cette graine et la protège contre les bactéries, les virus, les champignons. C'est pour ça qu'on pense que la plante fabrique cette poudre.
Il n'y a que cette plante qui fabrique ce type de choses.
Étrange plante en forme de cône. Les Romains l'appelaient lupulus, le loup. Ils croyaient que ce cône mangeait sa propre plante. Les Gaulois que nous sommes lui trouvent toujours les vertus qui nous intéressent.
Et ça calme aussi, hein. Ça permet aussi de dormir, hein.
Ah, d'accord. Ah, d'accord. J'ai compris. D'accord, je crois que c'est le contraire.
Ça fait dormir.
Là où il ne faut pas se laisser endormir, c'est décidément avec la différence entre le houblon naturel, le houblon bio, et le houblon industriel.
Pour savoir si une bière est faite avec des houblons industrialisés, quand le verre est vide, s'il reste encore un peu de mousse, parce que souvent dans les bières industrialisées, il ne reste pas beaucoup de mousse. Si les auréoles sont concentriques dans le verre vide, c'est industriel. La nature ne fait jamais quelque chose de... Alors, quand vous voyez dans les brasseries, vous avez des gros pots, là, en métal. Vous regardez dedans, c'est une pâte noirâtre absolument infecte. C'est de l'extrait de houblon avec du CO2, oui. Autour du verre, oui. Si les auréoles sont concentriques, c'est systématiquement fait avec du houblon isomérisé.
Isomérisé, entendez deux molécules qui ont la même formule brute, mais une formule développée différente, avant et après transformation. Il y a houblon et houblon avec des vertus peu comparables. C'est un connaisseur qui parle. Freddy Merkling n'est pas avare de son savoir et cela tombe bien. Il dirige l'exploitation agricole du lycée agricole d'Obernai en Alsace. Les élèves sont entre de bonnes mains. 65 hectares d'un seul tenant, c'est une chance aussi pour cette exploitation. Freddy Merkling est d'autant plus un homme heureux que ça y est, son houblon vient tout juste d'obtenir la certification pour la deuxième année consécutive. L'an prochain, il aura franchi la troisième année nécessaire à sa reconversion en bio.
On est en troisième année de conversion, donc on a la certification de ce matin. Donc l'année prochaine, en 2012, la récolte sera bio. Ouais. On est le premier producteur français de houblon bio. Ouais.
L'exploitation du lycée agricole d'Obernai, premier producteur français de houblon bio, même si le houblon ne représente pas un marché énorme, voilà qui est positif. La plaine d'Alsace est riche de beaucoup de choses, mais aussi d'un maïs bien envahissant. Allez diable d'ailleurs savoir pourquoi des pesticides sur une telle terre.
Si on arrive à recréer une agriculture performante, on est sur les meilleurs sols de la planète ici. Les leuses, ça fait partie des meilleurs sols de la planète. Il n'y a pas mieux que ces sols-là.
Le leus, la roche sédimentaire dite détritique, car composée pour moitié de débris terrestres, bien sûr, les meilleurs. Plus riches, il n'y a pas. D'aucuns vous le diront, le désert du Néguef, c'est du leus. Vous arrosez et tout pousse à nouveau. Alors ici en Alsace, vous pensez, il y a la terre et l'eau.
C'est des limons argilo-calcaires. Il n'y a pas meilleur sol que ça. Toutes les grandes plaines de la planète où il y a des agricultures performantes sont systématiquement ces types de sols. Il y a 17 mètres de leus sous nos pieds là. 17 mètres, ouais. Là-bas, on a un puits de captage pour pomper l'eau. Quand on a creusé le puits, le puissatier avait sorti les carottes. On avait 17 mètres de leus et après, il y a le gravier qui contient la nappe. 17 mètres de sol, c'est extraordinaire.
Par parenthèse, ou s'il fallait en rajouter, il fut un temps où les charrues retournaient la terre raisonnablement.
On travaillait en 10 pouces, en 12 pouces. C'est-à-dire on faisait des charrues qui travaillaient à cette profondeur-là. Ils retournaient très peu. Aujourd'hui, on travaille en 16 pouces, voire 18, 20 pouces.
Comme on dit, à partir d'un certain stade, on attaque la roche-mère. En Alsace, il y a tout de même de la marge.
Ici, on est vraiment dans des très bons sols qu'on peut très bien utiliser. Il faut les entretenir, évidemment. Donc, on a la gestion de la matière organique qui est prépondérante, donc compostage systématique de nos déchets. L'élevage, présent sur l'exploitation, très important. On a 240 taurillons pour le fumier et on va faire deux poulaillers label rouge cet hiver. Donc l'objectif, c'est de créer un maximum de diversité et de produits divers pour justement enrichir cette diversité. L'idée au départ, c'était en 1995 de mener sur cette exploitation un programme d'agriculture durable dans le sens le plus large possible du terme, avec des aspects sociaux.
2 salariés, 1 apprenti, l'association La Main Verte d'insertion de personnes en situation de handicap et bien sûr les élèves du lycée agricole.
Vous auriez dû venir mercredi matin pendant qu'il pleuvait, on a coupé 20 tonnes de choux à la main et il y avait 5 élèves avec moi. Et je vous garantis qu'on était trempés jusqu'au slip. Hein. Alors, on en a pris une.
C'était un aspect de la question. Il y a bien sûr aussi les autres.
Les aspects économiques, donc la performance technique, et bien sûr qualitatif, et la performance agroécologique, c'est-à-dire en protégeant le sol, en protégeant l'eau.
L'eau, essentielle même quand elle vous trempe comme une soupe. Important aussi, les haies qui ont été replantées.
Mes prédécesseurs ont commencé à la fin des années 90 de planter des haies. Donc vous en voyez une là. Alors ça c'est une haie de bois noble, merisier, frêne, chêne. L'idée était de voir ce que pouvaient donner des bois nobles exploitables à terme. Au bout là-bas, derrière la houblonnière, vous avez la plus vieille haie. Elle date de 1990. Ça a été fait avec des bois à croissance rapide. L'objectif était effet brise-vent et abri écologique pour la petite faune de plaine. Là, vous avez une haie plantée par Kronenbourg parce qu'il y a une zone de pompage de Kronenbourg qui a été mise en place. Donc, on l'a un peu aidé dans la réalisation. À l'autre bout de l'exploitation, on a encore deux haies. Donc, en fait, les haies sont orientées est-ouest. Ils font partie du couloir de la trame verte.
Pour faire la liaison entre les Vosges et la forêt noire.
Et la forêt du Rhin.
La forêt rhénane, c'est la forêt des deux côtés du Rhin, en France et en Allemagne. Donc, côté français, avec 6 réserves naturelles, dont la forêt d'Offendorf. La forêt noire, c'est juste après les plus de 11 000 km² de forêt en Allemagne donc.
Et nord-sud, on a les bandes vertes. L'objectif est de créer vraiment un écosystème de plaine. Alors, chose très surprenante, depuis les deux dernières années, le garde-chasse a enfin réussi à maintenir la perdrix qui n'existait plus. Il y a de nouveau des perdrix, des compagnies de perdreaux. Il y en a 5. Il est très très heureux parce qu'elles se sont même multipliées les compagnies puisqu'on est passé de 3 à 5. La population dans chaque compagnie est relativement élevée donc les couvées ont très bien fonctionné ce printemps.
Au printemps, les perdrix ont joué les perdreaux, c'est comme cela que la nature fonctionne. Il est emblématique de l'Alsace et aussi des saccages que l'homme fait à la nature quand elle dérange ses cultures, le grand hamster.
Alors hamster, il y en a partout, hein. Vous n'en verrez aucun. Alors on peut éventuellement se promener dans les betteraves et chercher un trou, et vous verrez le trou. Mais le hamster, c'est un animal nocturne, il n'est dehors que la nuit. Le moyen de voir l'effet des hamsters, c'est de venir lorsqu'on moissonne, au mois de juillet. Vous allez sur la moissebatte, vous regardez avec le chauffeur de la moissebatte et vous verrez les trous de hamster, les dégâts qu'ils font. Sur une descente de moissebatte qui fait 5 mètres de large, on a compté entre 4 et 5 trous de hamster. Rien que sur une descente.
Vous avez évalué vos pertes du...
Non, mais les pertes sont... C'est infime. La population minimum, c'est 2 à 3 hamsters à l'hectare. 2 à 3 hamsters à l'hectare, les dégâts sont nuls, ridicules. Quand il y en a 50, 100, 150 comme il y en avait dans le temps, là, attention, hein, c'est autre chose. Le problème des betteraves... Quand on a des plantes sarclées, hein, des plantes annuelles de ce type, le hamster, quand il sort du trou, il mange toujours concentrique. Mais il fait un rond parfait, hein, autour de son trou. Toujours la distance la plus courte à cause de son problème de sécurité par rapport aux prédateurs. Donc, il va manger toujours ce qui est le plus proche de son trou. Et le problème, c'est que quand les betteraves sont grandes comme ça, mais il les mange complètement. Et ça fait un rond où il n'y a plus de betteraves du tout. Alors, en théorie, par rapport à la surface, les dégâts sont minimes. Le problème que ça pose, c'est que la nature a horreur du vide, et donc il y a les adventices qui poussent. Chénopodes, amarantes, et puis ça devient une catastrophe. Un chénopode, c'est 100 000 graines. Enfin voilà, donc tous ces aspects-là font que les gens, ben, à l'époque, réagissaient violemment contre cette bête, parce que les choux à choucroute, ça fait des trous, ça fait toujours concentrique comme ça. Et dans le temps, on faisait beaucoup d'essais pour la sucrerie. Systématiquement, il y avait, par microparcelle, systématiquement, le hamster était dans les microparcelles.
Quel empêcheur de tourner en rond tout de même, ce grand hamster avec ses cercles concentriques parfaits dans les cultures. Sur les 65 hectares de l'exploitation du lycée agricole d'Aubernay, eh bien, il vit sa vie de hamster au milieu de l'écosystème.
On ne fait rien pour le hamster, on ne fait rien contre le hamster, pour être honnête. On fait une agriculture qui essaye de respecter l'écosystème et évidemment le hamster en fait partie, il en profite. Donc l'idée, elle est là. On fait de la luzerne, non pas pour le hamster, mais pour nourrir nos taurillons, avec des protéines fabriquées localement à la place de l'importation de soja OGM du Brésil. Il faut être clair, on n'est pas philanthrope, au contraire, on cherche à produire le mieux possible et le plus économiquement possible. Hein. et nos animaux, les nourrir le mieux possible pour qu'ils croissent le mieux possible, c'est tout notre intérêt. Donc le hamster là-dedans, pour moi, n'est pas un vrai problème. Il en fait partie de notre écosystème, il a toujours existé, il n'y a pas de raison qu'il disparaisse. Point final.
Au foin, certaines formes d'attendrissement, il n'en demeure pas moins que le grand hamster est plus légion en peluche qu'en vrai. Il est protégé, mais reste menacé. Mais revenons à nos moutons, plutôt à notre houblon, et si le réchauffement climatique s'en mêlait.
On sélectionne des variétés, donc ces variétés ont été sélectionnées déjà avec des printemps très chauds. Vous voyez, ils ont parfaitement bien résisté. On a deux, trois variétés anglaises anciennes. C'était la cata complète cette année. Hein. La plante a poussé à la vitesse grand V, comme un TGV. Début juillet, il y avait déjà des cônes. Et donc, normalement, 15 jours après, on récolte. Donc, on aurait dû cueillir le 15 juillet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, la plante, elle a commencé à sécher. Elle a fait mourir toute cette masse et elle a redémarré. Ah. Et rendement, bien sûr, zéro. Donc, ces variétés-là ne sont absolument pas adaptées au changement climatique.
Ah, ces Anglais, ils ne sont pas solides. Sauf que la question ne se pose pas que pour le houblon.
Qu'est-ce qu'ils vont planter pour dans 200 ans?
Des palmiers.
Bah oui, un chêne, c'est 200 ans. Aujourd'hui, un sylviculteur, qu'est-ce qu'il plante? Même raisonnement en arbo, même raisonnement en viti. Aujourd'hui, vous faites du Riesling, vous faites tout ça en Alsace. Est-ce que dans 50 ans, on fera encore du Riesling en Alsace? C'est la grande question.
S'il n'y a plus de Riesling en Alsace, eh bien, on se tournera vers le houblon bio de l'exploitation agricole du lycée d'Aubernais. Cette fois-ci, non plus avec le secours des Anglais, mais avec le concours d'un Américain.
On a un nez qui s'appelle Val Peacock. C'est un Américain. C'est au monde un des meilleurs nez dans le houblon. Comme dans le vin, comme dans tous les produits aromatiques, il y a des nez. À Grasse, il y a des gens spécialisés dans les arômes de parfum, c'est pareil. Et nous, on a un nez, ce nez, c'est un Américain qui s'appelle Val Peacock, auquel on envoie tous les échantillons, et c'est lui qui nous donnera son avis olfactif.
Le but du nez américain est de donner son avis d'expert hors pair. Le but de la parcelle de houblon de l'exploitation du lycée agricole d'Aubernais, reconvertie en bio dès l'an prochain, est de fournir en houblon de qualité non pasteurisé les microbrasseries.